Chapitre 98. Pour les deux cochers, le plus difficile n'a pas été de se laisser enfermer sur la tour métallique la plus connue du monde. Après s'être cachés dans un réduit technique du théâtre du premier étage, ils n'ont eu qu'à patienter. Lorsque les derniers employés abandonnent la plateforme, empruntant l'ultime navette des ascenseurs, ils ont le champ libre. Les choses sérieuses commencent, et c'est par les escaliers qu'ils sont obligés de gagner les étages supérieurs. Les nuages empêchent d'apercevoir les étoiles dans le ciel de Paris. L'exposition ferme ses portes après la désormais célèbre représentation musicale de la Fontaine Lumineuse. La foule, dont on perçoit la clameur même d'aussi haut, quitte le Champ de Mars. Les deux hommes n'ont pas le temps d'admirer l'extraordinaire vue qui s'offre à eux. La capitale illuminée ne sera que le décor d'une course très particulière qu'ils doivent absolument remporter. Il leur reste plus de 1300 marches à grimper avant d'atteindre leur but et ils disposent de moins de 10 minutes pour y parvenir. Ils enchaînent les escaliers, ne reprenant pas même leur souffle sur les paliers. Le record de vitesse d'ascension à pied depuis le sol, détenu par un sportif américain, est d'à peine plus d'un quart d'heure. Personne ne saura jamais que les deux hommes vont au moins égaler cet exploit sur sa dernière partie en étant de surcroît privés de la lumière du jour. Le vent nocturne ne cesse de forcir avec l'altitude. Ils doivent redoubler d'efforts. Pour éviter d'être déstabilisés par les bourrasques, ils se tiennent aux rambardes tout en prenant garde à ne pas manquer de marche. Entre le deuxième et le troisième étage, la forme de l'escalier change pour s'adapter à la structure plus fine de la tour. La sensation de vide est omniprésente, renforcée par les rafales qui perturbent leur équilibre et la fatigue se fait sentir. Le cœur battant à tout rompre, un des cochers est soudain pris de vertige. « Attends !» lance-t-il à son compagnon en se pliant sur lui-même. « Je ne me sens pas bien. On ne peut pas ralentir. Tout le monde compte sur nous. Courage, concentre-toi sur les marches et suis-moi. Nous sommes presque arrivés. » Prenant une grande goulée d'air, l'homme se redresse. Ils repartent. Hors d'haleine, ils atteignent la terrasse du troisième étage, la plus haute, celle où est installé l'appartement réservé à Monsieur Eiffel lui-même et à ses invités de marque. De l'extérieur, on aperçoit par les baies les papiers peints décoratifs et le mobilier de bois précieux. Pour l'heure, il n'y a là que le gardien, assis sur un tabouret et absorbé dans la lecture d'un roman. Le phare est installé encore au-dessus, sur une minuscule plateforme posée sur les deux arches de poutrelles croisées qui coiffent le monument. Sa lumière est aveuglante et le bourdonnement des installations électriques se mêle au sifflement du vent dans les structures. La clarté qu'il promène sur la ville et ses monuments peut être suivie à l'œil nu, tant elle est intense. Les cochers n'auront pas besoin de s'aventurer sur le minuscule escalier ajouré qui s'enroule autour de la colonne centrale dressée au sommet, car d'après leurs informations, les interrupteurs contrôlant l'alimentation du phare sont situés dans le local jouxtant l'appartement de l'ingénieur. En se baissant sous le niveau des baies vitrées, les deux hommes trouvent la porte du local. L'un vérifie sa montre. Presque à l'heure. L'autre lui désigne le gardien dans la pièce attenante. J'espère que son livre l'accaparera assez pour nous éviter d'avoir à l'assommer. Il sort tout de même un air de bœuf de sa sacoche. Il se faufile dans le local. La chaleur y est élevée et l'atmosphère sèche. Le tableau de commande est là, équipé de 4 gros contrôleurs d'intensité à aiguille et d'autant d'interrupteurs à basculement. Au-dessus de celui de gauche, une plaque gravée porte la mention « phare ». Les deux hommes se consultent du regard et le plus hardi des deux abaisse le contact. Une belle étincelle claque lorsque les lames quittent les broches. Son complice ressort aussitôt pour vérifier. Il revient sans tarder. C'est bon, c'est éteint. En éteignant le sommet du plus grand édifice du monde, ils viennent de donner un coup d'envoi silencieux. Une voix les interpelle soudain avec virulence.
Qu'est-ce que vous faites là, vous deux ?